le micro. Donc bonsoir à tous, je vous remercie d'être là pour la deuxième conférence concernant Jalons pour une histoire des sciences de l'homme, organisée en partenariat avec les écoles doctorales sciences de l'homme et avec la nouvelle directrice Lucette Toussaint. Je voulais dire pour l'anecdote que la dernière conférence était Jean-Paul Demoule et que le surlendemain de la conférence, je l'ai entendu à l'émission à France Culture le samedi matin. Voilà, j'ai dit, comme ça, on a eu deux fois la conférence, mais c'était vraiment une très belle conférence, un moment sympathique. Donc, je suis très contente de recevoir Jacqueline Carrois et Nathalie Richard, d'autant plus qu'elles sont à l'initiative, vraiment, de ce cycle de conférences. On s'est rencontrés il y a longtemps, autour d'un dîner à Poitiers, et avec l'ancienne directrice de l'école doctorale, on dit voilà, on va monter un cycle de conférences en partenariat avec les écoles doctorales sciences de l'homme, et qui s'intitule, je crois que c'est Jacqueline qui a trouvé le titre, Jalons pour une histoire des sciences de l'homme, et on a toujours été en contact toutes les trois, donc c'est vraiment un plaisir d'accueillir ce soir mes copines, voilà, je dis ça avec mes copines. Donc Jacqueline et Nathalie sont déjà venues séparément, jamais ensemble, plusieurs fois à l'Espace Mendès France, invitées en rapport avec leurs recherches. Donc Nathalie, tu es professeure d'histoire contemporaine à l'Université du Mans, et Jacqueline, directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, membre du Centre Alexandre Coiré d'histoire des sciences et des techniques, et vous avez été toutes les deux présidentes de la Société française pour l'histoire des sciences de l'homme. Voilà, donc vous avez en face de vous les personnes idoines. Donc vous allez nous parler toutes les deux des femmes dans les sciences de l'homme, 19e, 20e siècle. Je vous remercie encore d'être là au nom de tous et nous vous écoutons.
Merci Anne. Donc tout d'abord, merci pour cette invitation à la fois à Anne Piriou pour le Centre Pierre de Mendès France et puis à Lucette Toussaint donc pour l'école doctorale sciences de l'homme, hein, c'est un peu large. Donc Jacqueline Carrois, ici présente, et moi-même Nathalie Richard, nous avons dirigé il y a quelques années un ouvrage intitulé « Les femmes dans les sciences de l'homme » qui est paru en 2005, donc on peut vous le faire circuler si vous le souhaitez. Et donc la conférence qu'on va vous présenter aujourd'hui s'appuie sur les communications, sur les articles qui sont réunis dans ce volume collectif. Nous sommes partis pour cette réflexion sur les femmes dans les sciences de l'homme, une question qui nous a paru à la fois centrale et toujours actuelle, qui est la question de l'accès différencié au savoir et à la production du savoir selon les genres, selon les sexes. Donc bien sûr, cette question, elle est encore actuelle. Donc j'ai repris quelques chiffres du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche qui montre bien cet accès différencié. Donc les femmes sont en jaune, les hommes en violet. Donc vous voyez que les étudiants de licence sont massivement féminins, qu'à partir du doctorat, la proportion s'inverse, jusqu'à une très forte inégalité au niveau des professeurs d'université et des présidents d'université. La même chose s'observe peut-être encore plus dans les académies, donc nos diverses les diverses académies qui forment l'Institut de France, donc avec finalement l'Académie française qui est la moins conservatrice en la matière, avec moins de 15% de femmes. Et bien évidemment, il y a des différences entre les grands champs disciplinaires. Donc les chiffres là dont je dispose sont un peu plus anciens, mais la tendance est à peu près la même actuellement. Donc bien évidemment, les disciplines les plus inégalitaires sont les disciplines des sciences expérimentales ou fondamentales. Et les lettres et sciences humaines sont dans une relative meilleure position. Mais vous voyez que les sciences humaines finalement, dès qu'il s'agit des postes de professeurs, à peu près dans la moyenne des 25% de professeurs. Alors, cette question de l'accès différencié à la production du savoir, on va la poser aujourd'hui en regardant vers le passé, d'où le titre qu'on a proposé, ou le sous-titre qu'on a proposé, donc une approche historique, en vous présentant des exemples individuels ou collectifs dont la plupart concernent la période qui va de 1850 à 1950 à peu près, donc qui correspond à un contexte à la fois de transformation importante de la place des femmes dans les sociétés occidentales et aussi une période d'institutionnalisation des sciences humaines et sociales auxquelles on associera la médecine. Donc c'est pour ça qu'on préfère l'expression « sciences de l'homme » qui est un petit peu plus englobante, donc les sciences qui ont l'homme pour objet. L'autre élément que je voudrais préciser dans l'introduction, c'est que nous allons donc aborder cette question des femmes dans les sciences de l'homme en évoquant la question des femmes comme actrices dans les champs de savoir et en laissant de côté une autre question qui a été, de notre point de vue, mieux étudiée par les historiens, qui est la question de la construction du masculin en miroir, si vous voulez, du masculin et du féminin dans les sciences elles-mêmes, c'est-à-dire la construction au sein des différentes sciences de l'homme, d'un discours sur ce que c'est que le masculin, ce que c'est que le féminin. Alors ces travaux, les travaux sur ces sujets sont très nombreux. Pour ceux qui le souhaiteraient, je vous donne juste deux références. L'une classique qui a un petit peu lancé les travaux dans le domaine, qui est l'ouvrage de Thomas Laker qui s'intitule « La fabrique du sexe », qui traite des sciences médicales et physiologiques, de la manière dont progressivement, dans ces savoirs, dans ces sciences, on a opéré une distinction identifiée à une différence physiologique entre le masculin et le féminin, ce qui n'était pas le cas au Moyen-Âge, par exemple, où le sexe masculin et le sexe féminin étaient considérés comme à peu près identiques sur le plan physiologique. Donc voilà, et puis plus récemment les travaux d'Ilana Lovi sur des sujets proches, donc je vous ai cité ici l'un de ses ouvrages, L'emprise du genre. Donc ce ne sont pas ces questions-là qu'on va aborder, mais bien la question des places, des rôles que les femmes peuvent occuper lorsqu'elles sont actrices dans les champs de savoir. Et à cet effet, on a produit une petite typologie qui n'a pas vocation à être exhaustive, mais qui va nous permettre en fait d'évoquer des cas de figure, des rapports à la production du savoir qui sont différents les uns des autres et qui vont donc ces quatre types de productrices vont scander notre présentation. Ça permettra d'évoquer quatre figures. Donc on va commencer par la première de ces catégories, celle qu'on a appelée les pionnières, qui est sans doute la plus visible, celle sur laquelle l'historiographie est la plus importante. Hein. Tout le monde sait qu'il y a un nombre important de biographies de Marie Curie, par exemple, si on étend aux sciences qui ne sont pas les sciences de l'homme. Mais je vais donc maintenant passer la parole à Jacqueline, qui va évoquer cette partie.
Donc moi, je vais vous prendre un exemple qui est assez connu, qui est l'exemple de Maria Montessori, une Italienne. Et en même temps, on mettra cet exemple en miroir avec des pionnières beaucoup moins célèbres. Alors voici Maria Montessori. Donc elle est toute seule de son genre, si j'ose dire, fin du 19e, à être médecin en Italie, enfin à faire des études de médecine à Rome. C'est donc vraiment un cas isolé. Et alors elle devient très très célèbre. Alors elle est dans des positions féministes. Elle veut faire un féminisme scientifique. Et donc elle s'intéresse à l'anthropologie, à la science anthropologique, la science de l'homme comme être donc physique. Elle fait des enquêtes là-dessus. Et elle s'intéresse aussi aux enfants, au domaine des enfants, et elle va devenir très célèbre internationalement comme pédagogue, et encore actuellement, il y a des écoles Montessori, etc. Hein, c'est toujours très connu. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'en fait, elle est plus célèbre aux États-Unis. On dit c'est la femme la plus intéressante d'Europe, disent les journaux, en 1913, quand elle vient aux États-Unis. En revanche, en Italie, elle est plus, disons, mal vu. Et en tous les cas, voilà quelqu'un qui est célébré, qui a une postérité actuellement, etc. Et qui donc est vraiment un personnage en vue et une sorte d'icône. Hein. C'est la pionnière, hein, un peu icône. C'est un personnage extrêmement intéressant, extrêmement important. Elle mène aussi une vie de femme libre, puisqu'elle est en union libre avec un de ses collègues. Elle a un enfant, mais elle ne se marie pas. Enfin, c'est très, à l'époque, c'est évidemment très, très audacieux. Donc, et elle est donc dans cette vie de liberté. Et en fait, il ne faut pas oublier qu'à côté de cette pionnière, et là, je vais redonner la parole à Nathalie. Il y a des icônes, à côté de cette pionnière icône, il y a des invisibles, des femmes beaucoup moins connues. À toi, Nathalie.
Oui, en effet, il y a un risque quand on fait l'histoire des femmes dans les sciences, c'est de faire une sorte de pure contre-histoire des hommes dans les sciences, et donc faire une histoire des grandes femmes comme on ferait une histoire des grands hommes, avec les mêmes défauts. Et finalement, un intérêt historique faible. Et de fait, ces figures féminines célèbres, bien sûr, elles existent. Elles sont souvent reconstruites a posteriori et revendiquées par des groupes militants comme des sortes de figures d'ancêtres dont il faudrait se reconnaître, mais elles n'ont pas, elles ont assez fréquemment en fait peu de postérité et elles n'ont en tout cas pas réussi à inverser les tendances inégalitaires d'accès aux carrières académiques sur lesquelles j'ai insisté en introduction. Et de fait, derrière ces femmes célèbres, il y a aussi des femmes qui ont des parcours de pionnières et qui sont moins connues et que l'on peut aborder cette fois-ci collectivement, donc non plus en tant qu'individu, mais en tant que groupe. On peut prendre l'exemple des premières femmes médecins en France. Donc ces premières femmes médecins en France font leurs études médicales, donc médecine officielle, avec un titre officiel de médecin, évidemment pas des femmes qui soignent, hein, ça vient bien avant. Donc les premières étudiantes en médecine commencent leurs études en France dans les années 1870. C'est un véritable parcours du combattant à cette époque, puisqu'il faut obtenir une dérogation pour passer le baccalauréat, qui normalement est un diplôme réservé aux hommes. Et ensuite, bien évidemment, tout leur parcours d'études est un parcours dérogatoire, donc qui dépend beaucoup de la bonne volonté des institutions dans lesquelles elles font leurs études et des médecins qui acceptent de chapeauter ces études. Les premières femmes à accéder à l'internat, donc à compléter véritablement la formation médicale, le font dans les années 1880. La première femme interne des hôpitaux de Paris en France le devient en 1886. Elle s'appelle Augusta Knupfe. Véritablement, elle aussi, une pionnière, mais vous voyez, bien moins connue que Maria Montessori ou que Marie Curie. Alors, ce qui caractérise ces femmes médecins des premières générations, celles donc qui font leurs études, disons, avant 1914, c'est que la plupart, en fait, vont intérioriser les normes de la profession et donc ne pas du tout produire un discours critique face à la médecine de leur époque. On remarque deux choses. La première chose, c'est que la plupart ne vont pas faire une carrière hospitalière, donc elles vont en fait faire une carrière de médecine libérale, s'installent à leur compte, et donc les carrières les plus prestigieuses restent fermées pour elles. La plupart ne publieront pas dans les revues scientifiques médicales les plus classiques, même si beaucoup publieront des brochures ou des textes dans d'autres réseaux ou dans d'autres lieux. Rares sont celles qui vont véritablement avoir une œuvre médicale sur le plan théorique à côté de leur pratique. Donc ce sont avant tout des praticiennes, des médecins libéraux. Et c'est à peu près autour de 1900 qu'on invente le terme doctoresse pour les désigner. La deuxième chose qui les caractérise, c'est que la plupart vont s'engager ou vont pratiquer dans des domaines bien spécifiques qui sont considérés comme légitimes pour les femmes, c'est-à-dire la médecine des femmes et la médecine des enfants. Donc créant ainsi des sortes de secteurs féminisés des sciences à l'intérieur de sciences qui, globalement, ne sont pas du tout féminisées. Donc ces lieux d'une science féminine sont bien sûr à des lieux un peu d'enfermement, on peut parler un peu de ghetto scientifique. En même temps, ce sont aussi des lieux où se produisent des innovations et où se construit du savoir, notamment tout le savoir du XXe siècle sur l'enfant s'est en grande partie élaboré dans ces espaces très féminisés, à la fois sur le plan médical, mais aussi la psychologie de l'enfant, la psychanalyse de l'enfant, etc. Et on a parlé de la pédagogie tout à l'heure également. Alors, la dernière chose sur laquelle je voudrais insister à propos de ces femmes médecins, c'est que dans leurs travaux, la plupart vont également intérioriser le discours sur la différence des sexes, des genres dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le discours sur la différence médicale entre les hommes et les femmes, sans se distinguer sur ce point de leurs collègues masculins. Donc, elles reprennent pratiquement toutes, à de très rares exceptions près, l'idée qu'il y a une nature féminine, une nature physiologique féminine, que cette nature se caractérise notamment par la maternité, et que donc pour pleinement développer cette nature, il faut être mère, cette nature physiologique est plus fragile, qu'elle est aussi psychologiquement plus fragile, que de ce fait, l'importance de l'éducation des femmes et des filles est absolument centrale, et que finalement, l'espace le plus adapté reste l'espace privé, qui est plus protecteur pour ces femmes. Donc tous ces discours-là, qui, de nos points de vue du XXIe siècle, peuvent paraître comme des discours extrêmement clivants et dévalorisants, sont des discours qui sont également formulés par des médecins femmes autour de 1900, avant 1914. Donc finalement, rares sont les médecins femmes dans ce monde d'hommes à avoir une trajectoire et une œuvre qui les distingue de leurs collègues masculins et qui soient des carrières ambitieuses. Donc un exemple un peu connu est celui de Madeleine Pelletier, parce qu'elle a joué un rôle également dans les mouvements féministes au début du XXe siècle en France, qui est l'une des rares à aborder la question de la sexualité indépendamment de la maternité, donc en revendiquant la nécessité d'une véritable éducation sexuelle pour les jeunes filles et en revendiquant et militant notamment pour le droit à l'avortement. Elle a aussi, elle est l'une des rares, une œuvre médicale, c'est-à-dire qu'elle a publié dans des revues médicales, notamment dans le champ de la psychologie et de la psychiatrie. Voilà. Donc ça, c'était notre première partie donc pour vous présenter des figures de pionnières, avec, vous voyez, une palette en fait assez large de ce qu'on peut désigner par pionnière. Alors, dans un deuxième temps, on voudrait évoquer des figures de collaboratrices qui sont infiniment plus nombreuses et qui sont plus difficiles à repérer dans l'histoire, parce qu'elles sont souvent cachées. Leur nom n'est connu en général qu'en lien avec un scientifique homme plus célèbre. Donc là aussi, la forme que prend la collaboration peut être extrêmement variée. L'une des formes qui se féminise, qui est typiquement féminine au début du XXe siècle, c'est la position de la secrétaire. Mais il y a aussi des femmes qui collaborent aux expérimentations de leur mari, de leur frère, ou éventuellement dans un laboratoire, mais notamment dans le cadre privé, qui peuvent soit être des sujets, se soumettre aux expérimentations de leur mari, psychologue par exemple, ou bien aider à la mise en place des protocoles expérimentaux de leur mari, aider à la réalisation des expérimentations. Un autre cas de figure est celui très fréquent dans la période qui nous intéresse, celui des, encore actuellement je pense, des gardiennes de la mémoire, c'est-à-dire des femmes qui, à la mort du père ou du mari, deviennent les gardiennes de l'œuvre. Très souvent, elles ont le contrôle des archives. Elles ont également souvent le contrôle des publications, soit des rééditions, soit des publications des inédits, et souvent également le contrôle des traductions. Et elles s'érigent véritablement en gardiennes d'une forme d'orthodoxie de la pensée de leur père ou de leur mari. Un cas intéressant, celui des deux filles de l'anthropologue Cesare Lombroso, qui vont effectivement agir de cette manière avec l'héritage de leur père à la fin, toute fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, et donc en soutenant, en promouvant une œuvre qui, véritablement, est une œuvre qui place la différence entre l'homme et la femme sur un niveau anthropologique et dans une forme de hiérarchie très très forte. Donc elles vont en fait se faire les gardiennes d'une œuvre qui les assigne à une infériorité par rapport aux hommes. Donc voilà un exemple. Alors, d'autres collaboratrices peuvent jouer le rôle de petites mains, et notamment un rôle important sur le plan scientifique, qui est celui de l'enquêtrice, celle qui rassemble les données. Donc dans beaucoup de sciences humaines, les données se rassemblent par enquête, et on observe en fait une répartition des rôles entre un savant qui a les titres scientifiques et des enquêtrices qui peuvent avoir des titres très très variés, voire pas de titres du tout, et qui rassemblent des données. Alors, on voudrait évoquer ici, je dirais juste un mot peut-être rapidement d'un exemple de ces enquêtrices. En 1918 est formée en France la Ligue contre le cancer, donc elle est créée par un groupe d'hommes, médecins et hommes politiques, mais c'est une association qui vise aussi à rassembler des fonds, et les femmes de ces professeurs de médecine ou de ces hommes politiques jouent un rôle important dans l'animation de la Ligue contre le cancer dans l'entre-deux-guerres. Et elles vont aussi jouer un rôle important dans le développement de la cancérologie en France, parce que ce sont elles qui sont chargées, donc dans les centres anti-cancer dans l'entre-deux-guerres, on ne soigne que les patients indigents qui sont curables. Donc elles ont un rôle en fait de visiteuses médicales, et notamment d'infirmières, alors que la profession d'infirmière n'est pas encore totalement stabilisée. Et ce faisant, elles vont également remplir pour leur mari médecin des fiches qui permettent en fait de fabriquer une première épidémiologie du cancer à un moment où, sur le modèle notamment de la tuberculose, hein, qui est le modèle qu'on a en tête quand on travaille sur l'épidémie dans l'entre-deux-guerres, à un moment où on s'interroge notamment pour savoir si le milieu, donc notamment des conditions de logement insalubres, peut être soit la cause du cancer, soit favoriser le développement des cancers. Donc il y a un travail sur ce qu'on appelle à l'époque les maisons à cancer, donc il y a des lieux qui pourraient favoriser le développement des cancers. Et une grande partie des données, en fait, sont rassemblées par ces femmes de la Ligue contre le cancer. Alors enfin, je vais donner la parole pour terminer sur cette partie sur les collaboratrices à Jacqueline Carroy, qui va vous donner, évoquer un petit peu plus longuement un exemple intéressant. Donc je lui donne la parole de secrétaire.
Tu nous montres le portrait. Donc il s'agit d'Anne Berman. Donc c'est une des premières psychanalystes. Et donc elle, ce qui est intéressant, c'est qu'elle commence comme secrétaire d'une pionnière, qui est Marie Bonaparte. Donc Marie Bonaparte, c'est une princesse qui met sa fortune au service du mouvement psychanalytique français et qui publie beaucoup. Et donc elle, cette femme qui est par ailleurs, qui fréquente des cercles féministes et qui est pharmacienne de formation, donc c'est quand même pas n'importe qui, elle devient la secrétaire de Marie Bonaparte. Et petit à petit, elle monte en grade en quelque sorte dans le mouvement, mais toujours dans l'ombre. C'est-à-dire qu'elle devient secrétaire, par exemple, de l'Institut de psychanalyse, mais elle n'en est pas la dirigeante. Et elle se spécialise aussi dans les traductions, de sorte que vous trouvez beaucoup de traductions de Freud. Enfin, maintenant, on les a sans doute révisées parce que Freud est tombé dans le domaine public, mais qui sont d'Anne Berman. Et elle n'a pas véritablement d'œuvre psychanalytique. Donc c'est un personnage qui va, vous le voyez, jouer les secrétaires et les traductrices, qui par ailleurs est quelqu'un qui a une formation importante. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle est en relation au fond avec une femme pionnière qui, elle, au contraire, est une femme visible et qui, même Marie Bonaparte, elle se montre, enfin, je veux dire, c'est une femme du monde, etc. Et elle est connue comme cela. Donc, nous, ce qui nous intéressait, c'était Anne Berman. Nous nous appuyons, bien entendu, c'est pas nous qui le... Il faudrait que je cite ici Rémi Amouroux, notre collègue de Lausanne, qui a beaucoup travaillé sur Anne Berman. Et donc là, nous reprenons ses perspectives. Alors, je vais peut-être continuer maintenant. Tu nous passes alors une image que je vais commenter, donc sur les inspiratrices. Alors ici, vous avez quelque chose que vous voyez, place de la Sorbonne à Paris, le monument d'Auguste Comte. Alors, vous voyez en haut, évidemment, le grand homme, avec un pigeon, d'ailleurs. Et puis, vous avez une sorte de Vierge Mère, vous le voyez, à sa droite. Et cette Vierge Mère, c'est Clotilde Devaux. Vous avez même une rue de Paris qui s'appelle Clotilde Devaux. Alors, je rappelle brièvement donc, qu'Auguste Comte, c'est le fondateur de la philosophie positiviste, c'est quelqu'un de très connu. Sur la fin de sa vie, il tombe amoureux d'une femme qui s'appelle Clotilde Devaux, qui est beaucoup plus jeune que lui et qui n'est pas amoureuse de lui. C'est-à-dire qu'elle en aime un autre, il faut le dire. Hein. Bon. Et en fait, cette femme a été abandonnée par son mari dans des conditions difficiles, donc elle est sans argent, et elle est entretenue par sa famille, et Auguste Comte veut la protéger en quelque sorte, et elle veut gagner sa vie par sa plume. Et donc elle écrit deux romans qui sont publiés dans un journal de l'époque, hein, et romans qui reprennent en quelque sorte la question de sa condition, c'est-à-dire notamment la question du divorce, puisqu'au fond, ce qu'elle aurait voulu, c'est divorcer. Mais bon, alors ces romans sont très moralisateurs, parce que finalement, le divorce n'est pas possible, tout le monde meurt, je passe le détail. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette femme, donc, dans la correspondance, va d'une part... C'est quelqu'un qui écrit. Et d'autre part, Auguste Comte essaye de lui donner des conseils pour son livre. Et elle est très prudente. Elle résiste. Elle dit oui, très bien. Elle refuse. Il veut la tutoyer. Elle refuse qu'il la tutoie. Elle refuse de l'appeler Auguste. Donc, elle lui dit toujours « cher philosophe », etc. Et lui, il voudrait qu'elle l'appelle Auguste. Et donc, à certains égards, c'est une histoire où qu'on peut raconter comme cela. Or, qu'est-ce qui se passe? Vous le voyez, sur le monument, elle devient la muse d'Auguste Comte, parce que Auguste Comte, donc, à la fin de sa vie, donc, élabore une religion positiviste, dans laquelle elle devient la sainte, la vierge, etc. Et donc, voilà une femme qui, en fait, est un personnage tout à fait intéressant, qui va être totalement transformée par Auguste Comte, dans une muse, une inspiratrice, alors qu'en fait, elle ne le voulait pas. Hein, et qu'elle voulait en fait vivre de sa plume pour gagner sa vie. On pourrait dire cela brutalement. Alors, le monument est vraiment intéressant parce qu'il vous montre aussi comment une inspiratrice n'en est peut-être pas une. Et en tous les cas, elle n'a pas forcément envie d'être inspiratrice. Des fois, c'est vrai, il y a aussi des femmes qui ont envie d'être des inspiratrices. Mais là, ce n'est pas tout à fait le cas. J'ajouterai enfin un dernier détail. C'est un détail assez atroce. C'est qu'elle était tuberculeuse, donc elle est morte assez vite. Et quand elle était à l'agonie, en fait, Auguste Comte s'enfermait avec elle pour profiter de son agonie et ne voulait pas que sa famille soit à son chevet. C'est pour vous dire, vous voyez, le monument et puis ce que l'on peut savoir sur l'histoire de Clotilde Devaux qui, au fond, mérite plus de... Enfin, c'est une histoire tout à fait intéressante, assez cruelle d'ailleurs, et qui a été, que vous trouverez dans le livre. Donc c'est Annie Petit qui a raconté cette histoire que je vous répète ici un peu brièvement. Alors, j'en arrive maintenant donc à notre dernière partie, j'espère qu'on aura le temps, donc sur les productrices. Donc, il nous a semblé que là, il y avait encore différents... J'annonce notre plan, puis ensuite, on vous donnera, on fera quelques petits zooms, hein, comme on a fait. Donc, là, les enquêtrices, disons, sociales, on voudrait ici mettre un petit peu en exergue ces personnages. Oui, tu en dis un, peut-être un mot, parce que je... Pardon ? Oui, ah. Il y a les historiennes également.
Très bien. Donc, effectivement, il y a des secteurs, hein, des sciences de l'homme, qui, où très tôt, on a des auteurs femmes identifiées, mais dont l'identité n'est pas véritablement l'identité d'un savant ou d'une savante, mais plutôt l'identité d'une réformatrice ou d'une philanthrope. Donc, c'est en lien avec les mouvements de philanthropie, avec l'assistance aux pauvres, avec l'amélioration de la condition des ouvriers ou des ouvrières, que se développe toute une série de pratiques et de savoir-faire où les femmes vont jouer un rôle important et où les femmes vont produire des textes dont le but est notamment d'obtenir des réformes pour améliorer la condition des populations auxquelles elles viennent en aide. Alors ces femmes, elles sont très nombreuses, elles ont des profils souvent assez similaires, elles viennent des catégories aisées, souvent de la grande bourgeoisie. Elles ont très souvent une activité qui est en lien avec une identité confessionnelle et une pratique religieuse, soit catholique, soit protestante pour la plupart d'entre elles. Et donc, elle pratique l'enquête sociale en même temps qu'elle pratique la charité chrétienne. Elles accèdent à un statut d'auteur parce qu'elles peuvent produire des textes, donc, comme je l'ai dit, qui sont publiés, qui sont en général publiés plutôt dans la presse généraliste ou dans la presse politique que dans des revues scientifiques, dans un but d'obtenir des réformes. Et également parce que leurs travaux peuvent être reconnus par des institutions, notamment par l'Académie des sciences morales et politiques, qui est des académies de l'Institut de France, recréée à partir de 1832 en France, et qui se préoccupe de ces questions de ce qu'on appelle au XIXe siècle le paupérisme, c'est-à-dire la question de la condition ouvrière, notamment. Et dans ce cadre, ces femmes ont assez souvent pu concourir pour les prix de l'Académie des sciences morales et politiques et obtenir des prix. Donc il y a bien là une reconnaissance en tant qu'auteur, mais cette reconnaissance ne leur permet jamais d'accéder au titre de membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Hein, le premier membre de l'Académie des sciences morales et politiques, c'est après 1945, et je vous avais montré tout à l'heure les pourcentages. Voilà, c'est 6% de femmes actuellement à l'Académie des sciences morales et politiques. Donc on voit là, néanmoins, donc, ce qui se crée, ce que ces femmes créent, c'est une pratique de l'enquête sociale qualitative, donc une enquête épaisse, pas de la pratique statistique, hein, plutôt de l'enquête qualitative, qui est une pratique qui va bien sûr être ensuite réintégrée dans les sciences sociales lorsqu'elles vont s'institutionnaliser et remasculiniser à cette occasion. Donc au XXe siècle, hein, ces pratiques vont redevenir, en tout cas dans le cadre de la production des sciences académiques, une pratique largement masculine. Un deuxième cas de figure de productrice qui est intéressant à étudier, minoritaire mais plus visible, c'est celui des femmes qui produisent des discours qui sont des contre-discours par rapport à la science officielle, avec une vocation ouvertement militante, donc une science qui se présente ouvertement comme une science militante. C'est le cas par exemple des historiennes des femmes, qui écrivent une histoire des femmes dans une perspective féministe, et dont les plus anciennes datent du Second Empire, donc du milieu du XIXe siècle, même si bien sûr il y a eu un regain fort de cette écriture de l'histoire des femmes dans une perspective féministe à partir de la fin des années 1960 et dans les années 1970. Donc dès le Second Empire, il y a des femmes qui comme les historiennes des femmes des années 1970 vont souligner à quel point les femmes ont été représentent la moitié de l'humanité, que dans tous les grands événements historiques, elles ont donc représenté la moitié des acteurs, et à quel point elles ont été effacées, en tout cas où qu'elles sont devenues invisibles des récits de l'histoire officielle écrite par des hommes. Et donc, une série d'historiennes, dès le Second Empire, va s'attacher à produire une histoire qui restitue une position à ces femmes dans les grands événements historiques, notamment la Révolution française, hein, et une position d'actrice. Voilà. Donc, ça, c'est un cas, évidemment, minoritaire pendant une grande période, mais qui remonte à plus loin que ce qu'on pourrait penser a priori. Autre cas de figure, mais je vais repasser la parole à Jacqueline Carrois sur ce point, des femmes qui sont productrices dans des domaines de savoir qui sont des domaines aux marges, des domaines marginaux, voire des domaines jugés inquiétants ou dangereux.
Oui. Alors, nous avions dans le livre là, nous avions une affaire criminelle en commun, Nathalie et moi, où nous étions intéressés à une femme, fille de médecin, qui était jugée, enfin, elle était jugée criminelle parce que justement, elle disposait de savoirs médicaux qui étaient hors normes par rapport à sa condition. Et alors, dans un domaine que j'ai, enfin, sur lequel j'ai travaillé plus récemment, ce qui m'a pas mal intéressée, c'est la question des femmes dans le domaine des rêves au XIXe siècle. C'est-à-dire que là, on voit que, si vous voulez, au XIXe siècle s'instaure ce qui veut être une science des rêves, qui est une science essentiellement masculine. C'est-à-dire que c'est des hommes qui notent leurs rêves et qui s'opposent aux clés des songes en disant les rêves ne sont pas tournés vers l'avenir mais vers le passé, etc. Et donc qui montrent cela. Donc ils s'opposent à ce qu'ils appellent les superstitions. Et en fait, on voit que beaucoup des savoirs sur les rêves sont détenus par des femmes qui sont des voyantes, qui se disent voyantes. Mais il peut y avoir aussi, et c'est assez intéressant, donc des femmes dans le cadre du catholicisme qui vont combattre les superstitions. Et j'étais tombée sur un livre assez intéressant d'une certaine Marie Curot, 1855, qui, le titre du livre, donc c'est une dame qui est une pédagogue, hein, vous voyez qu'on est toujours dans le domaine de la pédagogie, et donc elle écrit un livre qui s'intitule « La vérité sur les songes », ouvrage ayant pour but de combattre les préjugés populaires et de donner des songes une explication raisonnable et morale. Vous voyez, le titre est à la rallonge comme au XIXe siècle. Et Marie Curot donc, s'intéresse à l'éducation des jeunes filles et dans ce cadre-là, donc, elle cherche au fond à faire en sorte que les femmes ne soient plus dans la superstition par rapport aux rêves. Et donc son livre est à la fois présenté comme une clé des songes avec des petites histoires. Enfin, donc il a cette présentation. C'est un livre populaire. Et en même temps, à chaque fois, elle donne un exemple et le héros de cet exemple, de cette petite histoire, croit que son rêve est prémonitoire. Et en fait, elle dit mais non, ça renvoie au passé. Donc on voit bien là une volonté alors dans un cadre catholique, hein, bien sûr, une volonté de prendre en compte la science, de s'adresser au peuple et d'avoir une visée pédagogique. Vous voyez que c'est un exemple tout à fait intéressant qui, me semble-t-il, montre comment il peut y avoir des femmes comme ça dans ces marges, notamment sur le thème des rêves. Et puis toi, tu avais un autre scoop, donc je vais te passer la parole et ensuite tu me repasseras la parole. Voilà.
Très bien. Alors, il y a encore un autre cas de femmes productrices de savoir qui sont des femmes qui sont des auteurs, qui se présentent comme auteurs, mais exclusivement dans le privé, c'est-à-dire des auteurs non publiés. Donc, comme vous le savez, une des sources, quand on travaille sur l'histoire des femmes, c'est ce qu'on appelle les écrits du fort privé, les écrits non publiés. Donc bien sûr, on trouverait des exemples dans les journaux intimes de très nombreuses femmes dans la période qui nous intéresse. Mais moi, je voudrais vous parler d'un autre type de source qui permet d'observer cette aspiration à devenir un auteur de science, mais qui ne va pas jusqu'à oser devenir un personnage public. Cette source, c'est la lettre au grand auteur, au grand scientifique. Alors, comme vous le savez peut-être, depuis au moins Jean-Jacques Rousseau, la lettre à l'auteur est devenue une pratique massive dans les pays occidentaux. Donc, on écrit aux grands écrivains. Et les femmes sont très nombreuses parmi les correspondants de ces grands écrivains. La question a été étudiée pour la France, pour le 19e siècle, notamment par Judith Lyon-Camp, dans un livre sur la lecture et la vie. Où elle évoque notamment des correspondantes de Gensu. Et c'est très intéressant. De même manière, on sait que Victor Cousin a eu de très nombreuses correspondances avec des femmes qui discutent de sa philosophie, même si lui-même est persuadé que sa philosophie n'est praticable que par les hommes. Alors, je voudrais prendre un autre exemple pour lequel on a un fonds qui permet de faire cette étude, qui est Ernest Renan. Donc, Ernest Renan devient très très célèbre au moment de la publication de La vie de Jésus en 1863. Donc, l'ouvrage est un best-seller, c'est vraiment le plus grand best-seller en France au 19e siècle, si on enlève la Bible, les textes religieux et les textes à vocation pédagogique pour les écoles primaires. Donc c'est un ouvrage qui s'est vendu à presque 200 000 exemplaires en 2 ans. Pour le 19e siècle, ce sont des chiffres énormes. Beaucoup plus que si on prend un roman paru exactement au même moment, Les Misérables de Victor Hugo, hein, qui, bien sûr, en tirage cumulé par la suite, va atteindre bien plus que ces chiffres, mais qui, sur le moment, se vend à 20 000, 30 000, je crois que c'est 50 000 exemplaires pour le premier volume, ce qui est déjà beaucoup, beaucoup. Donc 200 000 exemplaires, c'est énorme. Et donc Renan devient un personnage célèbre et le livre va susciter de très nombreuses réactions et de très nombreuses lectures possibles. En effet, ce livre a comme caractéristique qu'il mêle un discours savant. Donc Renan est ce qu'on appelle un philologue, qui travaille sur la critique des sources notamment donc sur l'exégèse des sources bibliques. Et à partir donc d'une critique des évangiles, il essaye de produire un discours purement rationnel et purement historique sur la vie du Christ, avec une explication psychologique des miracles, qui sont en fait des phénomènes de suggestion des disciples qui sont autour de Jésus. Donc il y a un discours savant, il faut appliquer les outils de la science, notamment de la science historique et de la science philologique, aux textes religieux pour produire une histoire qui soit purement rationnelle, historique, du fait religieux. Mais le texte de Renan, c'est aussi une vie de Jésus, c'est aussi une biographie du Christ, et donc il y a aussi une dimension religieuse. Et on peut faire une lecture également religieuse du texte, ce qui va démultiplier le lectorat de Renan. Ça explique qu'il ait eu 200 000 lecteurs. C'est-à-dire qu'à la fois vont lire le livre des lecteurs qui cherchent à lire un ouvrage de science moderne, et vont aussi lire le livre toute une série de lecteurs qui sont insatisfaits de la religion, notamment catholique, telle qu'elle s'est développée au XIXe siècle, et qui cherchent, d'une certaine manière, à adapter leur foi au monde moderne dans lequel ils vivent. Alors, Renan a reçu une centaine de lettres de lecteurs, donc il y a une centaine de lecteurs qui ont écrit à Renan à propos de la vie de Jésus. Et donc le fonds est conservé au Musée de la vie romantique à Paris, donc on peut l'étudier. Et parmi ces lecteurs, il y a de très nombreuses femmes. Et il y en a une qui est particulièrement intéressante parce qu'elle a écrit plusieurs lettres à Renan, 7 lettres exactement, sur la vie de Jésus ou à propos de la vie de Jésus, entre 1864 et 1867. Elle ne signe pas ses lettres, ça rend les choses encore plus intéressantes, et le dossier donc est archivé dans les archives Renan sous le titre L'Inconnu. Donc L'Inconnu, écrit pour la première fois à Renan en 1864, alors que Renan vient de publier une version populaire de La vie de Jésus, dans laquelle il y a une préface qui explique que ce livre s'adresse tout particulièrement aux femmes, aux prêtres, aux travailleurs, etc. Donc après avoir lu ce livre, elle décide d'écrire à un nom. On découvre alors qu'elle a déjà lu la version non populaire de La vie de Jésus. Et elle commence par un témoignage de lectrice qui est assez classique, un témoignage où la lecture est un outil d'émancipation et de liberté personnelle, donc avec presque tous les stéréotypes de ce genre. Donc elle se décrit lisant une fois tous ses devoirs familiaux remplis, le soir, vers minuit, à la lumière de sa chandelle. Donc volant en fait du temps pour elle sur le temps qui est celui de la journée normale d'une femme de la bourgeoisie au XIXe siècle. Mais assez rapidement, en fait, elle va décrire plus précisément l'émancipation dont il est question. Donc il y a une émancipation, donc elle décrit tout d'abord une émancipation d'ordre religieux ou spirituel, expliquant que la religion telle que la présente Renan, qui insiste sur la relation directe du croyant à Dieu par le biais des sentiments, donc c'est une religion sentimentale fondée sur l'amour, lui permet en fait de s'émanciper de l'autorité des confesseurs et de l'autorité donc des clercs catholiques auxquels elle a affaire dans sa vie quotidienne. Et puis rapidement, en fait, elle va s'engager sur le terrain de la science et produire dans ses lettres des éléments qui manifestent cet engagement sur le terrain de la science. Alors, première manière de s'engager, classique, rien de révolutionnaire là-dedans, elle envoie au Renan une petite somme d'argent pour financer, donc ça c'est du mécénat, des vergétismes, c'est quelque chose que les femmes pratiquent. Donc c'est une position féminine possible par rapport à la science depuis au moins l'Ancien Régime. Donc pour une fondation qui doit développer les études philologiques en France. Mais la correspondance va s'achever par quelque chose qui est beaucoup plus intéressant pour moi, qui est un mémoire de 25 pages qu'elle rédige et qu'elle envoie à Renan en 1867, qui est un mémoire où elle reprend toutes les critiques qui ont été faites à Renan pour les contester. Et on s'aperçoit qu'elle a lu non seulement le livre de Renan, mais en fait pratiquement tout ce qui s'était produit d'exégèse critique et de critique savante autour du livre de Renan pour proposer sa propre synthèse et surtout sa propre défense des arguments et de la science de Renan. Alors ce qui est intéressant, c'est que la correspondance s'arrête là et que bien évidemment ce texte n'a jamais été publié. Donc ces 25 pages sont bien une production par une femme, auteure, mais cette femme, prise dans les logiques qui sont celles de son milieu, hein, on devine qu'elle est mariée, qu'elle a des enfants, qu'elle vit dans une petite ville de province, qu'elle appartient à la bourgeoisie, cette femme n'a pas franchi le pas de l'écriture publique. Voilà, donc là, on est dans un cas d'autocensure, on pourrait dire. Vous savez que c'est un des grandes difficultés actuellement pour faire venir les filles et les femmes plus massivement vers les carrières scientifiques, cette question de l'autocensure. Voilà. Alors je cède maintenant la parole à Jacqueline Carrois pour vous proposer quelques pistes de réflexion qui permettront peut-être aussi d'ouvrir la discussion.
Oui, je vais être brève, puisqu'il faut quand même laisser la place à la discussion. Donc, les sciences de l'homme... quand on parle des sciences de l'homme, on est confronté à un paradoxe de sciences qui parlent de l'homme en général et qui, en fait, très largement construisent une image particulière de l'homme, hein, puisque c'était déjà Rousseau qui disait cela, enfin Jean-Jacques Rousseau, qui disait que au fond, l'homme est toujours en général, et puis de l'autre côté, il y a le sexe. Alors c'est évidemment un langage du 18e, c'est pas celui du 19e, mais je crois que c'est un langage qui a très longtemps persisté. Et donc, néanmoins, je crois que c'est intéressant de parler du rôle des femmes dans les sciences de l'homme et de leur donner un statut d'actrice, même si ce statut peut être ambigu. Et je crois que ça a des effets sur... Enfin, nous croyons plutôt, puisque c'est quand même une conclusion que nous avons élaborée en commun, que cela a des effets sur l'histoire des sciences. C'est-à-dire que on est là, lorsqu'on parle de ces femmes plus ou moins visibles, plus ou moins invisibles, etc., on est là dans une science qui est plus collective, par exemple. Voilà. On en a parlé à plusieurs reprises. On est là dans une science qui se situe plutôt du côté de la pratique plus que de la théorie. On est là aussi dans ce qu'on pourrait appeler une science en train de se faire, une science qui n'est pas forcément publiée, par exemple, comme l'a dit Nathalie tout à l'heure. On est là et dans une science qui s'élabore dans des espaces privés autant que publics. Si ce n'est même plus privé que public. Donc, à travers tous ces exemples, on voit que parler des femmes dans l'histoire des sciences de l'homme fait bouger, au fond, ce que l'on peut entendre par histoire des sciences. Et si on veut les faire apparaître dans la complexité de leur rôle, eh bien, il faut effectivement faire bouger l'histoire des sciences et des savoirs. Et maintenant, je pense qu'on va peut-être s'arrêter là.
Oui, je pense qu'on peut peut-être ouvrir plutôt sur la discussion.
Sur la discussion.
Voilà. Parce qu'on a évoqué beaucoup d'exemples. Évidemment, c'était un choix, mais peut-être que vous voulez des précisions, vous avez des questions, des remarques.
Merci à toutes les deux.
Alors, il vous reste aussi à lire l'ouvrage, qui d'ailleurs est dans la salle, que je récupérerai tout à l'heure. Donc, y a-t-il des questions ? Non ? Il vient à voir.
Vous évoquiez tout à l'heure la dimension conservatrice des quelques pionnières. On pourrait peut-être se dire que, vu déjà le parcours difficile pour accéder, il ne s'agissait peut-être pas d'être en plus un peu iconoclaste, quoi. Enfin, je ne sais pas si ça illustre. Et puis, finalement, vous avez fait surtout une magnifique histoire de la bourgeoisie, bien évidemment. Donc, c'est peut-être la deuxième raison pour avoir effectivement une production très conservatrice.
Alors oui, vous avez parfaitement raison, c'est-à-dire que... mais je pense qu'il y a deux choses. Il y a effectivement le fait qu'il ne faut peut-être pas projeter sur les intentions de ces femmes les choses qui n'y seraient pas, c'est-à-dire qu'elles souhaitaient avoir une carrière, sans doute une indépendance économique pour beaucoup d'entre elles. La médecine... Alors, beaucoup de ces femmes sont d'origine étrangère. Et une des raisons de ce choix des études médicales, c'est un choix pratique. Parce qu'une fois qu'on est formé en tant que médecin, si on doit repartir ou aller ailleurs, on peut exercer la profession médicale ailleurs dans le monde. Donc, beaucoup d'entre elles font ce choix pour des raisons pratiques et non pas forcément, effectivement, d'intention... militante autre que cette revendication d'une forme d'autonomie économique. Donc vous avez parfaitement raison. Ensuite, effectivement, l'histoire des sciences et des savoirs, lorsque l'on s'en tient aux strates où nous sommes tenus, c'est une histoire de la bourgeoisie. Si j'ai pas les statistiques ici, mais je pense que si je faisais des statistiques sociales sur qui est actuellement occupe des positions dans l'enseignement supérieur et la recherche, on verrait que ça reste un milieu massivement issu de des catégories moyennes supérieures. Donc la place des... Alors, il y a quelques trajectoires ponctuellement qui peuvent être des exceptions. La trace des catégories populaires dans les sciences, elle est encore plus difficile à opérer. Alors, ça m'intéresse parce que c'est ce sur quoi je suis en train de travailler actuellement. Je m'intéresse à l'histoire de l'archéologie, qui est une de mes domaines de spécialité. Et donc, je m'intéresse à la manière dont des savoirs archéologiques ont pu circuler dans les milieux ruraux, chez les paysans, dans la France du 19e siècle. Mais je m'intéresse à des gens qui ne savent pas lire et pas écrire. Pour faire de l'histoire des sciences, ça, c'est compliqué. Donc ça implique de trouver des traces indirectes de la manière dont des individus ont pu s'emparer de fragments de savoir et agir d'une manière ou d'une autre de telle manière que les archives gardent des traces de cette action. Donc, les traces de cette action, on peut les trouver, par exemple, dans des sources de nature économique. Lorsque un archéologue souhaite louer un terrain pour faire des fouilles archéologiques, à partir de quel moment les prix commencent à monter et pourquoi. Donc voilà. Mais là, on est dans des traces indirectes. Effectivement, là, les femmes dont on a parlé, elles ont tout accès à l'écriture. Donc, elles peuvent laisser des traces directes, ou en tout cas, en grande partie directes, dans les archives.
Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms de dames ou de femmes qui ont été professeurs, les premiers professeurs dans les universités?
Alors là, je pense que c'est dans l'entre-deux-guerres, en fait, qu'il y a les premières femmes en lettres, notamment. Mais alors là, j'ai pas de nom à vous donner tout de suite. Hein. Là, je pense que tu aurais... je pense que c'est vraiment dans l'entre-deux-guerres, en tous les cas. Oui, en France.
Je vois aucun nom qui me vienne suffisamment... qui me vienne pour la France.
Vous avez dit que ces femmes étaient... donc des bourgeoises, mais est-ce qu'il y a une spécificité régionale? Est-ce que vous avez, est-ce qu'il y a des études géographiques qui sont faites justement par rapport à...
Alors, il y a des spécificités nationales. Ouais. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, la situation qu'on a décrite, c'est pas du tout la même en Angleterre, par exemple, en Allemagne, où l'éducation des filles dans des lieux qui sont réservés aux femmes, mais qui sont et quand même plus avancés. Il y a aussi des cas particuliers comme la Russie, par exemple, où les études sont une voie d'émancipation. C'est très compliqué parce qu'on n'a pas le droit de faire des études sans l'autorisation de son père ou de son mari. Donc il y a tout un parcours de toute une génération de jeunes femmes qui vont se épouser quelqu'un se forme pratiquement d'un mariage blanc pour pouvoir faire des études. Donc les cas sont assez différents nationalement. Les cas qu'on a évoqués là ne sont pas tous des cas parisiens. Donc, mais bien sûr, en France, la formation académique, elle est avant la fin du 19e siècle, elle est très fortement centralisée. Donc c'est plus difficile à travailler. Ce sont des questions, de toute façon, qui n'ont pas été autant étudiées que cela. Donc, les enquêtes restent en grande partie à faire pour grande partie de ces femmes. Donc, je pense qu'on pourrait très bien faire des études. Alors, on sait que pour les sociétés savantes locales, il n'y a pas de femmes comme il n'y a pas de femmes dans les académies nationales. Mais ensuite, c'est une grande partie des enquêtes, je pense, sont encore à faire hein, sur ces questions.
Alors, merci pour cette présentation. En fait, je trouve que pour parler des femmes, vous êtes toutes les deux très dynamiques et c'était vraiment très intéressant de vous écouter. Alors, moi, je ne suis pas du tout historienne. Donc, mais du coup, votre présentation, elle me fait me poser des questions sur la place de la femme aujourd'hui. Quand on éduque nos enfants, on prône l'égalité homme-femme, etc. Par contre, vous montrez qu'en fait, statistiquement, dans le paysage français, en fait, les places, la place de la femme et la place de l'homme, en fait, ce n'est pas encore la même. Il y a tout un tas de mesures, en fait, qui sont mises en œuvre pour donner plus de place aux femmes. Et je pense, par exemple, notamment à tout ce qui est parité. On impose de plus en plus la parité, même au niveau universitaire, quand on fait des comités de sélection pour les embauches de nos collègues. On impose la parité, mais du coup, je me pose une question. Est-ce que ces règles, par exemple, comme la parité, elles nous rendent service à nous, femmes, aujourd'hui ou pas ? Est-ce que ces règles de parité qui nous permettent d'être présentes hein, plus fréquemment, en fait, à tout un tas de niveaux, est-ce que, quelque part... elle dénigre pas notre valeur scientifique. En fait, c'est une question que je me pose en tant que femme professeure à l'université, en fait. Parfois, je me pose des questions. Est-ce que quand je suis invitée à participer à un comité de sélection, est-ce que c'est pour mes compétences ou est-ce que c'est parce que je suis femme ? Et du coup, je me demande, en fait, comment toutes ces connaissances sur l'évolution de la femme, elles nous permettent peut-être de répondre à des questions d'aujourd'hui.
Oui, je pense que c'est une vraie question que vous posez. Hein. Je crois aussi que il y a un paradoxe qu'on a bien ressenti, c'est que évidemment, si on est peu de femmes à un niveau un peu supérieur, du coup, on est tout le temps mobilisé. Donc, on est beaucoup occupé. Et du coup, voilà, on nous pousse à aller dans telle commission, etc., alors que les hommes sont plus tranquilles à ce niveau-là. Donc ça, c'est un effet paradoxal, je dirais, de suroccupation, et souvent pas forcément pour des résultats très brillants, parce que moi j'ai des souvenirs d'avoir fait partie de comités pour recruter, on vous disait il faut faire attention à la parité, puis finalement qui est-ce qu'on recrutait ? Un homme, alors qui avait d'ailleurs, c'est pas pour dire qu'il était mauvais, hein, non, simplement s'il y a une sorte d'hypocrisie et à certains égards, mais d'un autre côté, c'est bien quand même de le faire. En tout cas, ce qu'il y a de bien, je pense, c'est qu'on en a pris conscience. Moi, je le vois dans ma carrière, puisque je suis maintenant à la retraite, donc j'ai vu quand même au début. En fait, ça ne sautait pas aux yeux aux collègues que, par exemple, quand j'étais un jury de thèse, j'étais la seule femme, tu vois. Alors que maintenant, quand même, les gens le remarquent et disent « Ah ben oui, dans ce jury de thèse, il faudrait qu'il y ait un peu plus de femmes. » Donc, quelque chose qui... allait de soi, au début de ma carrière, hein, dans les années 70-80, ne va plus de soi maintenant. Ça, c'est un petit progrès. Pour les femmes qui sont avec des responsabilités, souvent, qu'elles sont surchargées. Ça, j'ai remarqué aussi ça. Je ne sais pas si je... Enfin, c'est des remarques. Hein.
Oui, c'est très important et très intéressant. Et c'est le côté positif, justement, de toutes ces règles. Moi, j'y vois aussi un côté négatif où à chaque fois, je me pose la question. Et des fois, j'ai envie de poser la question aux gens qui m'invitent à faire partie de ces comités. Mais est-ce que vous m'invitez pour mes compétences spécifiques ou est-ce que vous m'invitez parce que je suis une femme et qu'il vous faut bien une femme dans vos comités ? Et parfois, ça me met mal à l'aise parce que j'aimerais bien avoir confirmation que c'est pour mes compétences scientifiques parce que j'estime que si je suis ici, c'est pour des compétences que j'ai pu avoir. Et je pense que dans tout un tas de métiers. Cette question, en fait, elle se pose. Hein. Est-ce que la femme, finalement, maintenant qu'on instaure des règles de parité qui sont très bien, qui sont, permettent de faire avancer les choses, mais est-ce qu'on est là pour répondre à la parité ou est-ce qu'on est là parce qu'on reconnaît nos compétences?
Alors, je pense qu'il y a une phase de transition qui, de toute façon, sera ambiguë. Moi, je voudrais bien retourner la question. Est-ce que vous êtes sûre que tous vos collègues masculins dans le comité de sélection sont là à cause de leurs compétences?
Alors, je suis entièrement d'accord avec vous. Effectivement.
Parce qu'il y a quand même d'autres logiques qui peuvent jouer.
Oui, voilà. je suis d'accord. Voilà. Mais du coup, parmi l'ensemble des hommes, hein, quand on constitue un comité de sélection, par exemple, on va davantage pouvoir cibler en fonction du profil du poste sur lequel on recrute. Et du coup, voilà. Mais je suis d'accord sur le fait que tous les hommes qui atteignent des fonctions n'ont pas forcément...
Et puis ensuite, moi, je vois les chiffres là et je me dis qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas. On voit des éléments positifs qui sont notamment au niveau du doctorat et notamment les doctorants financés où la parité est quasiment en train de s'établir. Donc là, il y a des concours, ils sont ouverts. Il n'y a pas d'obligation de faire un jury à parité pour recruter les candidats. Et actuellement, il s'avère qu'on tend vers 50-50. Donc je pense qu'il y a un élément positif. Ensuite, ce que je vois dans la parité dans les procédures de recrutement, c'est que ça permet de prendre en compte ce qui retarde la carrière des femmes, c'est-à-dire les enfants, les congés maternité, et de le prendre en compte à la fois pour les femmes et pour les hommes, c'est-à-dire des choses qui n'étaient jamais évoquées il y a encore quelques années. Maintenant, quand on regarde un dossier candidature, on regarde aussi, ah ben là, d'accord, elle a un peu moins publié, ou il a un peu moins publié, mais oui, mais d'accord, mais il a deux enfants en bas âge. Voilà. Ce qui serait peut-être susceptible de relisser un tout petit peu ces courbes qui sont... on peut considérer que la dernière colonne, les présidents d'université, c'est une fonction plus politique, qu'il y a encore autre chose qui joue. Mais jusqu'à prof d'université, il y a quand même vraiment un problème de déroulement de carrière et de promotion des jeunes doctorants, puis maîtres de conférences. Donc je pense qu'il y a un mal pour un bien, c'est-à-dire effectivement, il y a une phase nécessaire de transition. Quand les choses se seront un petit peu rééquilibrées au niveau de maître de conférence, on verra ce qui se passe au niveau des profs.
Merci.
Je voudrais rajouter que j'avais participé à on avait fait une enquête à l'École des hautes études en sciences sociales, qui est une institution où il y a beaucoup, beaucoup d'hommes. Hein. C'est-à-dire que... tu vois, et on s'était aperçu, donc on avait fait à la fois des statistiques, enfin bon, ça rejoignait un peu cela, je ne vais peut-être pas revenir là-dessus, mais on avait aussi fait des entretiens donc avec des anciennes collègues. C'était extraordinaire, la différence avec les hommes, ils étaient prédestinés, je schématise un peu, ils étaient prédestinés à faire la carrière qu'ils faisaient, et les femmes, ben, elles étaient là par hasard, enfin, c'était très étonnant la manière dont les gens racontaient leur carrière, donc des femmes qui sont des personnes très connues, hein, je ne vais pas vous donner de nom, mais des collègues historiennes, sociologues, etc. Donc il y a une différence dans l'intériorisation de la carrière, c'est-à-dire que une femme peut se sentir moins légitime qu'un homme, alors que un homme qui est peut-être quelqu'un de moins compétent se sentira d'entrée de jeu légitime. Enfin, souvent, c'est ce qui en tous les cas ressortait de ces entretiens, enfin que je schématise beaucoup, hein, très très, mais c'est intéressant quand même, voilà.
C'était juste par rapport au graphique qu'on a sous les yeux. Il y a deux manières de le lire. Il y a effectivement une comparaison de grades. Il y a aussi quelque part une comparaison chronologique, à savoir que ces publics-là ne sont pas de la même génération. Alors, ça pourrait être le petit clin d'œil optimiste de se dire que ce qu'on voit là-bas va un peu glisser dans les années. Et la question inverse, c'est ceux qui sont actuellement professeurs d'université, quand ils étaient étudiants, c'était quoi la proportion ?
Oui, oui, vous avez raison. Alors après, j'ai pas, donc, sans les chiffres du ministère, il y a des graphiques qui montrent à quand se produira la parité si les évolutions se poursuivent. Et je ne me souviens plus pour les maîtres de conf, c'est raisonnable, mais au niveau professeur, c'est en 2068. Voilà. Donc, je pense que ça tient du coup effectivement compte de cette question de l'âge. J'aimerais bien qu'on pourrait sans doute encore nuancer en regardant l'âge moyen par catégorie. Je me demande quel est l'âge moyen des maîtres de conférences femmes par rapport aux hommes. Donc, parce qu'il y a aussi possibilité que les carrières se ralentissent. Mais vous avez raison, il y a aussi des éléments de cette nature. C'est-à-dire qu'effectivement, le graphique est appelé à évoluer vers une augmentation du pourcentage des femmes. Mais si l'évolution se poursuit telle qu'elle a été observée dans les... Je ne sais pas depuis quand ils font les statistiques, mais voilà, la date de parité pour les professeurs d'université, c'est 2068.
Oui, il n'y a plus de questions. Vous reviendrez.
Merci en tout cas.